Yahoo!
Jeff, je sais que ça va trahir mon âge, mais c'est pas grave, là.
Vas-y donc.
Ouais, je capote sa technologie qu'on a en 2024. Là, on est branché par Zoom avec notre chum Derek Blouin-Perry qui est en troisième mission humanitaire du côté de l'Ukraine. Il est dans une ambulance en ce moment.
C'est fou.
Puis on va jaser en direct avec lui pour savoir comment ça se passe là-bas. Derek, tu nous entends bien?
Ouais, ça marche 5 sur 5.
OK, hey, merci, cool. Merci d'être là, mon chum. Je sais que c'est très, très, très occupé pour toi. Merci de prendre quelques minutes pour nous parler ce matin.
Écoute, toujours un plaisir. On fait des miracles.
Là-bas, là, dis-nous donc, là, okay, t'es où? T'es-tu dans l'ambulance? Comment tu fais pour avoir de l'Internet puis nous parler en ce moment?
Écoute, là, je viens juste d'arriver de déposer des patients dans une ville, puis on est au camp de base, finalement, de notre mission actuelle, et il y a une panne de courant dans la région. Fait qu'imagine, il a fallu arriver, partir une génératrice, réussir à brancher Internet par satellite. Fait que ça a été une belle petite aventure de réussir à avoir la connexion ce matin.
Hey, tabarouette, merci. Mais tout cet effort-là pour pouvoir jaser avec nous ici à Boulevard 101, à Rage Against le matin. Perdre le courant comme ça, c'est-tu fréquent?
Oui, quand même assez. Je dirais quand même, pas à tous les jours, mais pas loin, pour différentes périodes. Il y a des grandes mesures de rationnement d'électricité dans le pays, puisque les Russes ont détruit plusieurs centrales électriques, des transformateurs, des barrages, des choses comme ça. Donc, c'est assez normal le soir, l'après-midi, le matin, d'avoir des rotations, les lumières qui éteignent dans la ville, ou même carrément l'Internet qui part au complet là, par cellulaire et choses comme ça. Donc là, nous autres, ça vient de tomber notre tour, on ne savait pas trop. Fait qu'on a une petite génératrice pour au moins avoir des communications, peut-être capable d'avoir des appels là, quand on est demandé quelque part.
OK.
C'est fou. Derek, tu es dans quelle région exactement? Puis là, tu disais, je viens d'aller porter des patients dans une autre ville. Qu'est-ce que tu fais? Là, hier, tu m'as parlé, tu m'as dit, je conduis une ambulance. Donc, qu'est-ce que tu fais?
Ouais, là, je suis dans la région de Pokrovsk, pas exactement dans la ville. On est un petit peu à l'arrière, donc la région du Donbass, là, où le plus gros des combats sont présentement. J'ai commencé mon séjour en Ukraine en faisant des livraisons alimentaires, là, un peu comme les autres fois, mais j'avais une plug pour faire aussi du médical. Donc, ils cherchaient ici des ambulanciers pour faire des transports. Donc, c'est un contrat bénévole, mais via l'armée ukrainienne, où on est responsable de l'évacuation des blessés du front. Donc, à toute heure du jour, on peut être appelé pour ramasser une, deux, trois, quatre personnes, même dans l'ambulance comme ça. Et ben, comme les hôpitaux proches du front, ben, carrément sont soit détruits, soit complètement saturés, on va déplacer ces gens-là, des fois, jusqu'à 2h30 de route d'où on se trouve ici, pour qu'ils soient capables d'avoir une place à l'hôpital.
Hey, Derek, ça brasse énormément depuis une couple de semaines, je dirais, même en parallèle avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. On utilise maintenant des missiles autant du côté de l'Ukraine que de la Russie. On est en train de sortir les gens des différentes ambassades à Kiev. Toi, sur le terrain, tu vois-tu une différence dans le conflit et dans la violence depuis quelques semaines?
Ben, je te cacherai pas que ça brasse. La nuit dernière, les Russes ont lancé un missile intercontinental, donc pour la première fois dans l'histoire, sur la ville de Dnipro, qui est une des villes sur lesquelles on va faire une bonne partie de nos transports médicaux. Donc, ça serait tombé là, aux petites heures du matin chez nous. Heureusement, il n'y avait pas d'ogive nucléaire au bout, là, seulement des petits explosifs là, comme ça. Donc, c'est encore en développement. C'est sûr qu'avec l'élection de Donald Trump, ça brasse aussi, on ne se le cachera pas. J'ai été un peu perplexe par rapport à ça, c'est-à-dire que je cherchais à comprendre c'est quoi la réaction des Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis au départ, il était un peu fermé sur le sujet. Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est peut-être d'une part un peuple qui est habitué à se battre contre les Russes. Hein, ça fait des siècles qu'ils essaient de se libérer un peu de cette emprise-là, de cette oppression. Donc, de se faire lâcher par les Américains, c'est-à-dire, je comprends que pour eux, c'est une trahison. Mais ce que j'ai remarqué rapidement, c'est un peu l'étincelle dans les yeux, c'est-à-dire, ben, écoute, les Américains vont peut-être nous lâcher, c'est pas vrai qu'on va abandonner. T'sais, cet ennemi-là, on résiste à lui depuis toujours, 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 donc on continue, on baisse la tête, puis on avance, aussi difficile cela soit-il.
Est-ce que les Ukrainiens sont ouverts à des négociations de paix avec la Russie, puis à céder du territoire, ou c'est non, 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 on continue à combattre coûte que coûte?
Je te dirais que ce que je sens sur le terrain, c'est qu'ils ne sont pas ouverts à négocier pour ça. Surtout qu'ils n'en voient pas vraiment la légitimité. si on regarde ça, c'est-à-dire que c'est leur territoire, les plans de paix que la Russie a proposés jusqu'à maintenant sont assez unidirectionnels. C'est-à-dire qu'on propose l'annexion de 25, peut-être 30 % du territoire ukrainien. De l'autre part, on dit le choix du gouvernement, la démilitarisation, donc finalement de transformer l'Ukraine en une espèce de colonie russe. Donc, on ne parle pas d'une paix où on dirait, écoute, laissez-nous deux, trois villages, puis c'est correct. C'est un peu, si la Russie gagne, l'Ukraine n'existe plus. Le peuple ukrainien, la langue ukrainienne, on va tenter de l'effacer, de l'écraser. Donc, c'est difficile un peu dans les souliers d'un Ukrainien de dire, oui, c'est une paix intéressante, parce qu'en fait, c'est la capitulation complète qu'on demande.
Hey, Derek, on s'est parlé souvent à Rage Against le matin, puis chaque fois on parle de tes différentes missions, c'est ta troisième. Tu nous avoues, tu nous dis que tu vas te mettre dans des positions de plus en plus dangereuses. Jusqu'ici, là, ta troisième mission, comment que c'est côté danger? Tu sais, je veux pas dire, j'espère que tu te mets pas trop en danger, mais est-ce que c'est plus dangereux que les deux premières fois?
C'est toujours difficile à évaluer, dans le sens où tu as raison, tu sais, on évalue l'utilité de l'aide qu'on apporte un petit peu à la mesure du danger. Tu sais, je peux me tenir à 1000 km des combats puis être utile. En même temps, les missions qu'on a fait vers la ville de Kherson, par exemple, la dernière fois, on a voulu y aller il y a 2 semaines et on n'a pas pu. C'est-à-dire que les drones chassent les civils dans la rue. Il y a de l'artillerie qui frappe des écoles dans le quartier. Finalement, on a réussi à obtenir une permission pour rester en banlieue de la ville. On a visité 3 écoles. Les 3 écoles avaient été bombardées, dont une la veille. Et il y a des enfants là-dedans. Là, je veux dire, les fenêtres sont éclatées, les portes sont éclatées. T'sais, on comprendra que c'est là où clairement les besoins sont plus grands. Mm-hmm. Là, ici, je suis un peu plus affilié avec l'armée ukrainienne. Fait que je ne suis pas nécessairement sur le front, mais je suis en uniforme, je suis dans un véhicule camouflage, je me rends sur des points où c'est absolument l'enfer, des points de transfert de patients où ça arrive par autobus, par jeep, par choses comme ça, et où on fait les transferts d'une place à l'autre. Donc, c'est sûr qu'il y a un certain niveau de danger. Mais l'utilité est vraiment là. On se rend compte qu'on fait une vraie différence.
Fait que, Derek, si je comprends bien, là, c'est pas parce que tu es dans une ambulance que tu étais à l'abri du danger, peut-être même au contraire.
La rumeur qui court un petit peu ici, puis c'est un peu macabre à dire, là, mettons qu'on change de ton, là, mais ouais. Les gens avec qui je fais du bénévolat présentement, l'essentiel de ces gens-là ont perdu des amis depuis qu'ils sont en Ukraine. Les gens qui sont dans les corps médicaux, des ambulanciers, des chirurgiens, des anesthésistes, à peu près tout le monde que je connais sur l'équipe où je suis présentement a perdu quelqu'un. Il y en a qui en ont perdu 6, il y en a qui en ont perdu 1. La réalité, c'est que d'être dans une ambulance, c'est une cible. Tu n'es pas à l'abri, malgré ce qu'on pourrait penser. Au contraire, tu deviens une cible pour les Russes.
Derek, Derek, comment tu vis avec cette crainte-là, puis comment tu vis avec tout ce que tu vois, là, tu nous as parlé d'école, les vitres éclatées, des enfants, t'es-tu capable de faire le vide, comment tu prends ça émotionnellement?
C'est pas toujours facile, en même temps, c'est difficile à expliquer, parce que sur place, t'es tellement confronté à ça que tu dis, écoute, j'ai la chance de faire une différence, j'ai la possibilité d'aider les gens, la reconnaissance, on la voit, que ce soit avec des civils, que ce soit au niveau des soldats, que ce soit dans la rue quand on se promène et que les gens voient qu'on parle pas la langue. Tu sais, vraiment, il y a un appui qui est là. C'est vraiment plus au niveau du retour à la maison. Après ça, quand on commence à décomposer ça, que ça devient plus difficile. Là, je parle pour mes 2 dernières missions, là, mais j'appréhende que ce soit la même chose. T'sais, on fait des transports avec les soldats qui peuvent durer, comme on disait tantôt, au-dessus de 2 heures. Ben, ces soldats-là, avec Google Traduction, on jase, on parle, ils t'expliquent qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi ils sont rendus là. Puis là, il y en a un qui te dit, ben écoute, moi, matin, j'étais dans les tranchées, puis là, il y a une bombe thermobarique qui a explosé sur mon escouade. On était 12 soldats, je suis le seul qui en est sorti. Le gars, il est brûlé à grandeur du corps. Là, faut que tu l'amènes dans l'ambulance comme ça, puis... T'sais, tu reçois ça, là, tu jases avec, tu dis, écoute, on t'amène à l'hôpital, puis on s'occupe de toi en attendant, puis on fait ce qu'on peut. Mais ce qui me frappe, c'est la quantité de misère qui est générée par une guerre comme ça. Wow. Civils, soldats, tout le monde est affecté d'une façon ou d'une autre, et ça détruit vraiment les gens.
Derek, la dernière fois qu'on s'est parlé ici en studio, le plan et la promesse que tu avais fait à ta famille, c'était, OK, tu partais sur cette troisième mission humanitaire-là, mais tu allais être de retour pour Noël, pour le temps des fêtes. C'est-tu encore le plan?
Oui, c'est encore ça le plan. C'est bien parce que je l'ai promis. Je t'avoue qu'une fois qu'on est ici, c'est particulièrement difficile de laisser tomber les gens, de mettre ça derrière soi puis de dire « Bon, mais écoute, j'ai fait mon petit bout, c'est fini, je peux me retourner à la maison, avoir du fun. » En même temps, dans la vie, il faut faire des compromis. Là. J'ai une famille qui m'attend, donc ça serait un peu égoïste de les laisser attendre pendant que je suis ici aussi. Donc, on essaie de couper la poire en deux, puis après ça, au retour, faire ce qu'on peut pour continuer de supporter les gens qui sont ici en Ukraine sur le terrain.
C'est certainement des décisions incroyablement difficiles, puis on peut comprendre, tu sais, à force de jaser avec toi, là, ça fait une couple de fois qu'on se parle, on commence à se connaître aussi. Je vois que c'est bien déchirant pour toi personnellement. Derek, on va te laisser aller, on va te dire tout d'abord un immense merci, parce que je sais que c'est complexe là, qu'on puisse se jaser en direct, Ukraine-Québec comme ça. Merci. Prends incroyablement soin de toi, cher ami. On pense à toi énormément. Continue à faire tellement de bien. Et on a très, très hâte de te revoir ici au Québec, à Québec, et venir nous voir ici en studio.
Un gros merci, les gars. Faites attention à vous autres aussi.
OK. À bientôt, cool. À bientôt, Derek.
Salut, Derek.
À bientôt.
Porte-toi bien.
Aïe.
Hey, dis qu'il est au Donbass, OK? Les Russes ont pris depuis octobre au Donbass un territoire aussi grand que l'île de Montréal. Fait qu'il est en pleine zone de guerre.
Ah oui, il est drette dedans. Ça me donne des frissons quand on parle. Ah. Tu penses à l'ambulance qui aurait peut-être une croix rouge ou quelque chose sur le top. Tu dis, OK, ça, c'est on touche pas à
on
ça.
On touche pas à ça.
C'est pas ça pantoute.
J'ai une boule dans le
choses, ouais, ça remet les choses en perspective. Ouf, pas mal. Hein?
Ouais, on est bien ici.
Un être humain assez incroyable, disons-le. Ouais. Derek Blouin-Perry, on salue sa famille qui était peut-être à l'écoute aussi. Peut-être qu'il y avait eu vent là, qu'on allait jaser avec Derek. Mm-hmm. C'est tout le temps le fun d'avoir de ces nouvelles. Donc, en souhaitant qu'il continue à nous donner des nouvelles et qu'on va le voir, là, on le laisser revenir.
Oui, qu'il revienne.
Passer le temps des fêtes avec sa famille. Puis ensuite, venez nous voir ici en studio pour commencer 2025. Vous êtes à Rage Against le matin. Rage.